Il est 8h16. Vous êtes à l'écoute de Radio Panique. Ce sont les promesses de l'aube et notre invitée est là. Bienvenue, Novella.
Bonjour tout le monde.
Novella, tu es une des Morissettes du Dimanche du Conte. Et donc, je ne sais pas s'il faut repréciser. Pourquoi vous vous appelez Morissette ?
Alors, c'est notre petite blague, voilà, parce qu'on aime bien être un peu un décalage avec nos histoires et contes et rêveries. Et en fait, c'est parce que le Dimanche du Conte, donc ils ont un directeur artistique qui c'est un dindon en fait, et il s'appelle Monsieur Maurice, donc qui est là depuis le début du projet. Et donc voilà, c'est une petite blague, comme on est toute une armada de bénévoles, voilà, pour majorité femmes, du coup, voilà, il y a un peu une blague de Maurice et ses Morissettes, un peu la star des Claude et ses Claudettes. Voilà, on aime bien rigoler.
Et du coup, effectivement, quand on va au Dimanche du Conte, il y a ce dindon qui vient dire bonjour de temps en temps à la salle et au public et qui met une bonne ambiance. Novella, si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler de la nouvelle saison. Mais avant ça, est-ce que la saison passée s'est interrompue, comme pour la plupart des lieux culturels de façon très brutale en mars. Et donc justement en mars, vous vous apprêtez, devait avoir lieu aussi cette après-midi oralité des coloniales, et donc ça a dû être reporté. Comment vous avez géré, comment vous avez combattu, on va dire, le confinement avec les Morissettes et le Dimanche du Conte? Est-ce que vous avez trouvé une parade?
Oui, bien sûr. Parce qu'en effet, cette année, donc la saison passée, oui, c'était un peu marqué par une série d'annulations. Effectivement, comme on le sait bien tout le monde, à partir de mars, on a dû annuler tous nos événements prévus. Mais déjà, l'événement du mois de mars, en effet, devait être un autre spectacle à la base qui était prévu dans la programmation, qu'on a annulé. Justement pour parce que en fait on s'est fait en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des soucis justement au niveau de réappropriation culturelle, et donc voilà, on avait fait un choix voilà un peu apposé, un peu fort, d'annuler ce spectacle en plein milieu de l'année, et justement pour marquer un peu aussi notre envie d'approfondir ces questionnements. On avait justement prévu de travailler ensemble avec donc d'autres activistes militants pour voilà une société décoloniale, et donc cet événement qui devait avoir lieu en mars et donc a été annulé une semaine avant. Donc tout, on était toutes prêtes et tout, et en fait non, voilà. Et donc on a attendu un peu d'avoir des nouvelles de qu'est-ce qu'on va devenir, la culture, qu'est-ce qu'on va faire, et tout, voilà. Il y avait beaucoup de confusion, beaucoup de silence, de la part des institutions. On savait pas trop les artistes qu'on avait annulés, qu'est-ce qu'on faisait, est-ce qu'on les payait quand même ou pas. Donc il y avait beaucoup de soucis de notre part pour les artistes, pour les non publics aussi, pour tout le monde en fait, parce que voilà, c'est une ambiance un peu difficile pour plein de gens, ça faisait pas du bien cet isolement aussi de chacun chez soi. Et donc voilà, à un moment donné, on avait vraiment fort envie de faire quelque chose, mais on savait pas trop quoi. Et à un moment donné, on a entendu aux infos qu'en fait on avait le droit de faire du sport à 25 en plein air. Donc voilà, c'était pour nous un peu une valeur d'espoir comme ça. On a dit, ah tiens, c'est intéressant, on peut faire du sport, mais bon, nous on fait de la culture, mais comment on fait? Donc on va faire du sport, du conte. Voilà. Et donc on s'est dit que bon, on a un peu essayé de négocier avec le Bruegel, c'était pas évident parce qu'on est accueilli par un centre culturel donc de la ville. qui évidemment est lié à des contraintes, enfin à des injonctions assez strictes de la part de voilà de la commune de Bruxelles 1000. Et donc voilà, le premier événement, on l'a fait de manière un peu clandestine, on va dire, dans le parc de forêt, la guinguette du parc de forêt qui n'était pas encore ouverte. Et donc c'était au mois de mai, donc quand ça commençait un peu, toute petite, un tout petit peu les déconfinements. Et donc on a envahi la guinguette, on a un peu arrangé des palettes et voilà, on a fait du yoga conte. Et voilà, c'était vraiment super, parce que les gens étaient super contents de se retrouver en plein air, distanciés, tout le bazar, mais voilà, partager des émotions, des histoires, ça manquait beaucoup à tout le monde avait la banane, c'était génial. Et donc on a continué, on a pu continuer après, par la suite. Donc on s'est dit, tant qu'on y est, là maintenant, on ne sait pas qu'est-ce qu'on peut faire après, donc on profite maintenant, donc on fait tous les dimanches. Parce que normalement c'est un dimanche par mois, le dimanche du conte, mais on s'était dit qu'on avait envie de rattraper un peu aussi voilà, toute la pause depuis le mois de mars. Et aussi de venir à l'encontre des artistes qui voilà qui avaient plus de contrat, qui se retrouvaient vraiment dans la difficulté arrivé à la fin du mois voilà parce que le statut d'artiste c'est un chômage mais c'est, enfin voilà tout le monde n'a pas facile à vivre qu'avec ça ça dépend fort de situation en famille Donc voilà, on a programmé donc on a fait 5 événements donc 6 tout le long du mois de juin. Donc voilà, on a fait du chi conte, on a fait du conte boxing, on a fait du badminton conte, et voilà. Et donc,
du natation conte.
De la natation aérienne, tout à fait. Évidemment, on s'arrangeait pour que le sport ait un peu quand même un lien avec les histoires qui allaient être racontées juste après le petit entraînement, parce qu'on s'entraînait pour de vrai. Hein.
Oui, oui, je témoigne. C'était du vrai sport.
Voilà.
Et justement, cette façon un peu de détourner les règles, d'un peu aller à l'encontre aussi de l'autorité et des injonctions, est-ce que c'est quelque chose qui vous a nourri du coup et qui vous nourrit en tant que conteuse, en tant que passeuse de contes aussi, et qui a nourri la programmation de cette année, justement le fil rouge aussi de cette année qui s'appelle Disciple dissidente.
Bah oui, tout à fait. En effet, il y a clairement une connexion. Bon, après au dimanche du conte, il faut dire que effectivement cette année ça s'appelle comme ça, mais la dissidence ça nous nourrit un peu depuis toujours qu'on est arrivé là avec donc les autres Morissette et Aline en particulier que voilà qui s'occupe avec moi surtout de la programmation. Et effectivement, bah toute l'ambiance en général de ces injonctions très contradictoires vis-à-vis de la population belge, européenne et mondiale en fait. Effectivement, ça nous a beaucoup inquiétés. Et bah voilà, et on s'est dit que en fait c'était une bonne thématique, disciple dissidente, et entre autres il y avait beaucoup de spectacles qui on avait l'intention de programmer qui rentraient très bien dans cette thématique, dont celle que bah déjà on a évidemment reporté les événements qu'on a dû annuler en mars, avril et mai. Parce que voilà, ça me semblait juste de les reporter. Et mais voilà, il rentrait parfaitement dans la thématique. Est-ce qu'il y avait donc cette fameuse oralité décoloniale qui devait avoir lieu en mars, qui évidemment c'est clairement un discours qui on espère très dérangeant pour la pensée dominante, parce que voilà, parce qu'on parle beaucoup dernièrement de décolonialisme. Mais enfin voilà, nous les blancs, on a du mal hein, enfin à se inscrire là-dedans en fait, à prendre à assumer les choses, à prendre enfin sans que ce soit voilà quelque chose de très pénible, parce que c'est pas pour nous que c'est pénible, mais en fait c'est il faut juste assumer qu'il y a un problème en fait, et comme pour le sexisme qu'on avait plutôt abordé avec la la saison d'il y a 2 ans, donc Riot, récit d'insoumise oralement transmissible, où on avait programmé que des femmes. C'est le même discours en fait. Voilà, ça ne suffit pas. En tout cas, moi, ça me suffit pas de dire oui, il y a du racisme, mais moi, enfin, je suis pas raciste. Je suis un blanc gentil. Enfin, en fait, il faut vraiment questionner parce que voilà, dans le milieu du conte, j'ai l'impression qu'on n'a pas encore beaucoup abordé ces questions-là. Et en fait, les récits, qui les racontent, de quel point de vue, c'est vraiment super important de se poser des questions. Voilà, notre besoin des autismes, tout ça. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de questionner tout ça pendant toute l'année. Évidemment, ça se fait pas en une journée, en un après-midi. C'est pas, voilà, on n'a pas l'intention de tout résoudre en un jour, évidemment. Mais voilà, c'est une première occasion de se questionner, après d'approfondir tout le long de l'année, et après éventuellement penser aussi organiser un prochain festival comme on l'avait fait pour MU, mais bon, là il faut voir par rapport aux énergies disponibles, mais voilà.
Et justement, pour revenir sur cette question, est-ce que le conte et justement le fait de finalement entre guillemets se réapproprier ces histoires qui sont transmises oralement de génération en génération, est-ce que ça permet d'une part d'avoir un autre regard, et donc le fait que le conte ne soit pas exactement non plus l'histoire officielle entre guillemets et la littérature bien inscrite, est-ce qu'il y a une plus grande ouverture justement à ces récits autres qui seraient justement plus décoloniaux, où on a quand même tendance, en tant que blanc, en tant que conteuse et conteur blanc, à rester dans nos histoires et nos récits de comment ça le monde va.
C'est-à-dire que en fait ça dépend qui raconte, de quel point de vue, comment, si il s'est posé certaines questions de pourquoi il allait chercher des histoires ici ou là-bas. Pour moi, c'est important de se poser la question. Et voilà, il y a plusieurs démarches possibles, il y a plusieurs questionnements à se faire. Et pour moi, en fait, c'est pas une question non plus de l'artiste en soi, c'est une question qu'en fait, à niveau structurel, on a baigné, ça fait des siècles qu'on baigne dans une pensée complètement coloniale, et on est encore complètement dedans, parce que le colonialisme, ce n'est pas fini, parce qu'il a juste changé de forme. Et en fait, malgré nous, ça m'aide, en fait, souvent, en tant que femme féministe, lesbienne, etc., etc., ça m'aide en fait de faire le parallèle avec les autres problèmes de domination. Et en fait, il y a rien à faire. C'est pas, en fait, nous on a grandi là-dedans. Et comme les hommes, ils ont grandi dans une pensée sexiste. Nous, on a grandi dans une pensée raciste et colonialiste. Une culture, ça fait partie de notre culture. On l'a dedans, dans notre DNA, quoi. Enfin, et malheureusement, enfin, il y a du boulot à faire pour se défaire de tout ça, déconstruire plein de choses. Et c'est clair que, enfin voilà, je sais pas s'il y a beaucoup d'artistes qui se posent la question pourquoi je raconte des histoires d'Amérique latine ou des histoires du Japon qui parlent pas forcément du Japon industrialisé, des capitales japonaises d'aujourd'hui, mais du petit kimono, de la petite campagne, de la petite tatami. Et pourquoi en fait on a besoin de cet exotisme-là? Et voilà, j'ai lu dernièrement des articles justement pour questionner nos besoins d'exotisme. Et enfin, c'est assez frappant en fait de comment on se positionne par rapport à l'autre, loin, là-bas, mais qu'en fait elle est à portée de main ici, mais avec qu'elle, pas du tout, en fait, décontextualisée de son contexte d'origine, réappropriée ici en Belgique, et qui du coup ça fait un peu décalé, bizarre, étrange, alors que dans son contexte n'est pas du tout étrange, pris dans son contexte d'origine. Et pourquoi on a besoin de se relationner comme ça avec cette chose-là, complètement déconnectée de leur culture d'origine, et c'est les manier ici comme si c'était quelque chose de sympathique et voilà, exotique pour nous, pour nous faire voyager et tout ça. Mais est-ce que c'est vraiment Enfin, est-ce qu'il rend justice à ces cultures-là? Je sais pas. Enfin, je pense qu'en tout cas, ça vaut la peine de se poser la question. Et voilà, et aussi des conteurs non blancs, qu'est-ce qu'on attend d'eux, même si par exemple ils sont complètement baignés des cultures belges depuis qu'ils sont tout petits, est-ce qu'on s'attend quand même qu'ils soient exotiques par rapport à une histoire en programmation Voilà, enfin, il y a plein de questions, mais il n'y a pas que ça. Enfin, c'est très complexe, c'est énorme. Et voilà, j'espère que on pourra vraiment aller un peu en profondeur ce dimanche, donc 25 octobre, avec voilà ces militants qui font que ça, enfin, qui sont très concernés par ces questions-là un peu tous les jours. Et c'est pas que juste, enfin, ils peuvent juste pas ne pas y penser parce que voilà, ça les concerne. Donc c'est pas. Voilà, en question de, à un moment, tiens, on pourrait se poser une question.
Mais du coup, cette, enfin, moi, ça me questionne effectivement ce fait. Est-ce que quand on raconte des contes amérindiens ou japonais, comme tu évoquais, est-ce que c'est la recherche d'exotisme ou justement c'est la volonté d'avoir une autre perspective aussi et de se donner une ouverture à une autre perspective et donc comment être être entre les deux, quoi, ne pas être justement dans la juste oh, c'est exotique, c'est chouette et on le montre comme quelque chose de, d'exotique, mais aussi se dire ben, tout le monde ne pense pas comme nous et tout le monde, enfin, comment en tant que blanc aussi pouvoir c'est une question que je me pose, hein, j'ai pas du tout de réponse là-dessus, mais donc est-ce que c'est une question de posture plutôt de cette question de réappropriation culturelle que tu évoquais tout à l'heure, est-ce que c'est une question de posture, est-ce que c'est une question que automatiquement un blanc qui dit un conte amérindien c'est de la réappropriation culturelle?
Bah, moi, j'ai pas des réponses comme ça claires, mais en fait, oui, en effet, bah oui, on peut découvrir d'autres cultures. Le problème, c'est que qu'en fait, quand c'est pas notre culture, et c'est une culture qui vient de d'ailleurs, de notre époque, de notre lieu géographique, dont, enfin, on a juste entendu dire des choses. Enfin, voilà, c'est juste que c'est compliqué de, quand tu connais pas très bien la culture, de ne pas tomber malgré toutes nos bonnes intentions dans des clichés, en fait, dans des choses qu'on s'est imaginé que. Et comme toute la littérature des derniers siècles, c'est quand même bien imprégné de pensées coloniales. Bah, peut-être il faut faire attention, en fait, à comment on se renseigne, les sources qu'on prend, qu'est-ce qu'on lit, comment. On découvre et on rentre en contact avec cette autre culture qui n'est pas la nôtre. Enfin, voilà. C'est quand même, je pense qu'il y a pas mal de pièges que malgré nous, on peut pas trop y échapper, quoi.
Et justement, pour revenir à cet après-midi, le 25, ça se passe, et qu'est-ce qui va se passer, en fait? Est-ce que ça sera...
Bah, donc, le 25, parce que nous, on aime bien donc, ce concept de causerie. Hein, enfin, on le fait un peu toute l'année, parce que, voilà, on aime bien discuter avec les gens, mélanger aussi tout ce qui est artiste et public. Pour nous, c'est pas quelque chose de séparé, c'est quelque chose qu'on vit ensemble quand il y a un artiste qui vient. Donc souvent, enfin à chaque fois qu'il y a un spectacle, on fait une causerie après. Et donc les causeries, voilà, on les appelle comme ça parce que on n'aime pas le terme conférence ou débat ou parce que c'est trop frontal. Donc causerie, c'est plutôt un mode de parole qui circule de manière plutôt circulaire. Et donc avec modération évidemment pour que tout le monde aille son temps de parole et son voilà et que ce soit bienveillant, respectueux. Et donc les causeries, ça va s'ouvrir à 15h déjà, donc c'est dimanche 25 octobre. Et en fait, on commencera par un atelier, un petit atelier de quelques minutes pour parce qu'en fait on s'est rendu compte que pour aborder n'importe quel sujet qui autour du décolonialisme en fait c'est vraiment très important de savoir d'où on parle, d'où on part, en fait c'est comment on se positionne par rapport à ça en tant que personne, en tant qu'individu, donc Donc l'idée, ce serait de faire un atelier pour checker nos privilèges. Donc l'idée, c'est de voilà, chacun fait un peu un check de soi à soi, hein, par rapport à où il se positionne par rapport à tout ça. Et c'est voilà, c'est voulu que ce soit plutôt dans une approche intersectionnelle. Donc voilà, qui aborde un peu toutes les questions de domination, pas seulement celles concernant la couleur de peau, mais voilà aussi le sexe, le genre, le handicap ou pas, voilà tout ça. Et donc voilà, on fait un premier check comme ça, voilà, on se positionne un peu par rapport à les discussions qui vont suivre. Et donc après une petite pause, on en va accueillir donc trois intervenantes qui pendant 2 heures, ils vont un peu nous raconter leur vécu, enfin leur militantisme au quotidien, hein, parce que voilà, c'est des personnes qui ont réfléchi beaucoup à ces questions-là et ils sont directement concernés et ils vont un peu discuter un peu de comment elles, en l'occurrence, parce que c'est trois femmes. À l'occurrence, dans leur pratique, voilà, ils opèrent pour que voilà, on avance un peu dans toutes ces questions-là. Et donc, ça va être donc le collectif Kaina. Et donc, c'est un collectif de femmes féministes, en grande partie musulmanes, mais pas que. Et qui voilà, donc qui se bat depuis longtemps pour un peu déconstruire plein de préjugés par rapport à l'identité, à leur identité. Il y aura Anouet Simpoma, donc du collectif Banco, c'est une historienne de l'art d'origine congolaise, belge d'origine congolaise, qui donc il s'intéresse beaucoup d'art et des représentations dans l'art. Voilà, des différentes cultures, en particulier des Noirs. Et donc, voilà, qu'il parlera un peu de sa manière de militer. Il est très proche aussi du Café Congo et voilà, de toute une série de réseaux militants. Et donc, Fatma Karali, donc, qui représentera le collectif Aoussa, qui a aussi beaucoup réfléchi par rapport à ces questions d'imaginaire, aussi dans le conte. Ils ont toute une série de brochures qui est disponible sur leur site, qui sont vraiment très intéressants par rapport à voilà, les stéréotypes. Là aussi, c'est plutôt concernant le monde arabe. Et donc voilà, il y aura 2 heures, donc ils ne feront pas que parler elles. Évidemment, il y aura un échange avec le public, voilà, qu'on espère riche. Et éclairant, enfin je sais pas, je pense que ça va être très intéressant. Moi en tout cas, j'avais déjà écouté Wet Simpoma pendant un autre week-end organisé par FS il y a 2 ans. Et voilà, pour moi c'était vraiment très intéressant, donc j'espère que voilà, qu'il sera un peu pour tout le monde. Et évidemment, il y aura un salle aussi, beaucoup d'artistes, conteurs et conteuses qui se questionnent aussi beaucoup, avec qui on en parle déjà depuis beaucoup de temps, de ces questions-là, et qui ont vraiment voilà, envie de approfondir avec nous tout ça. Et voilà, après il y aura une pause, et on terminera avec le spectacle de Paul Wamo, qui est un artiste kanak de Nouvelle-Calédonie, qui est en Europe depuis quelques années, mais qui va rentrer en Nouvelle-Calédonie en novembre. Donc, on est très content de pouvoir l'accueillir en octobre, parce qu'il devait venir en mars. Donc, voilà, en octobre, c'est un peu la dernière chance de l'avoir avec nous. Et voilà, lui aussi, c'est un artiste qui réfléchit beaucoup à ces questions-là, qui se pose beaucoup de questions sur les identités culturelles. Et j'espère, voilà, qu'aussi on aura l'occasion de parler avec lui de la situation très complexe de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui, et voilà, et de ces artistes aux identités plurielles qui se retrouvent ici en Europe à affronter tout ça. Et voilà, après il y a une causerie aussi évidemment avec lui après le spectacle.
Ok. Et on peut réserver les places
Oui, donc les réservations, ça se passe donc via le dimanche du compte. Donc c'est soit par mail info@dimanche-du-compte.be, et soit par téléphone donc 04 88 512 860. Et voilà, on a déjà pas mal on n'a jamais eu autant de réservations à l'avance en fait. Je sais pas, peut-être c'est les gens justement qui disent tiens il y a un truc culturel, après on sait pas c'est après ce qui va se passer, donc on s'assure déjà cette place là. Mais en tout cas, évidemment, après, on a aussi une jauge réduite parce que voilà, on doit quand même faire les comptes avec les mesures Covid. Cette fois-ci, évidemment, il n'y a pas de bar. Ça va faire bizarre, mais on s'est dit que voilà, on a intention de envoyer un mail à tous les gens qui ont réservé la semaine prochaine pour dire d'amener leur boisson, leur pique-nique. Voilà, au moins, ça fera un peu quand même convivial.
Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, cette question des identités, donc, elle se poursuit en étant abordée dans les autres dimanches du reste de la saison. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur le reste de la programmation aussi?
Oui, en effet, du coup, on est parti sur cette file rouge de disciples dissidentes, du coup, évidemment, d'identité aussi qui un peu hybride et donc qui se détache un peu de leur origine ou qui lutte pour autre chose ou qui voilà, donc il y aura effectivement plusieurs spectacles qui vont dans ce sens. Donc voilà, déjà au mois de novembre, comme chaque année, on questionne les identités queer voilà, qui se démarque de l'hétéronormativité dominante. Donc cette année, on a eu l'idée de collaborer avec le cabaret Mademoiselle. Et donc on a voulu faire proposer un défi à des conteurs-conteuses belges de jouer les jeux, de construire leur personnage drag king, drag queen. Voilà, de questionner un peu aussi leur identité de genre. Et donc, il y aura, ce dimanche, on va faire un atelier toute la journée, donc avec ces conteurs et conteuses qui animeront le cabaret du mois de novembre. Et donc, ça va être un cabaret drag. Voilà, par des conteurs et conteuses voilà, qui ont bien voulu se mouiller dans cette expérimentation. Et donc ça va être un partenariat avec Pink Screens Film Festival qui a lieu au mois de novembre comme chaque année au Cinéma Nova et dans d'autres salles aussi apparemment cette année, parce que voilà, ils devront aussi respecter les mesures de leur côté. Et donc, comme chaque année, on fait une collaboration. On rentre un peu aussi dans leur programmation avec ces questions autour du genre. Et il y aura aussi d'autres. Par exemple, au mois de mars, il y aura Le Bon Fils, donc par Ahmed Afitz. C'est un conteur belge d'origine tunisien. Qui en fait justement il racontera, c'est un spectacle plutôt autobiographique sur sa double identité belgo-tunisienne et voilà, de ses racines en Tunisie, de sa mère, sa double culture, voilà, c'est très intéressant aussi. Et voilà, sa manière aussi de regarder à son passé aujourd'hui qui vit en Belgique. Donc voilà, après il y aura Barry Cordy aussi, ça parle beaucoup de double culture, parce que c'est une conteuse belge d'origine italienne qui parle un peu de comment ses parents ils ont vécu la migration en Belgique, et qu'est-ce que ça faisait de retourner en Italie, enfin voilà, elle plonge dans ses souvenirs, donc Ricordi ça veut dire souvenir. Et voilà, ça aussi, ça questionne un peu les regards d'ici, de là-bas. Voilà, il y aura aussi Janis Joplin, que c'était un personnage aussi à l'identité très dissidente. Hein, et voilà, c'est une chanteuse blanche dans les années 60, née et grandi dans le culture bien pensant des États-Unis de l'époque, tout en prenant un autre schéma complètement dissident, en chantant du blues pour une femme blanche à l'époque, c'était vraiment pas ce qu'on attendait. Et donc voilà, il a cassé pas mal de codes dans sa vie à plusieurs niveaux. Donc voilà, on parlera aussi de nazisme, on parlera aussi de Juliette et Roméo, et on accueillera aussi Myriam Pélican, son artiste qu'on aime beaucoup, et qu'elle, c'est toute une dissidence en soi au quotidien, voilà, qui viendra avec Didier Kovinsky le 13 décembre, avec une vieille licorne. Voilà, il y aura tout un spectacle, enfin une série de spectacles jeunes publics aussi dans l'après-midi, en novembre, en décembre, en janvier et en février.
Et donc, c'est une programmation spécifique aussi. Vous aviez ça aussi les autres années, une programmation jeune public?
Oui, c'est-à-dire que les Dimanches du Conte, à la base, ils sont nés pour faire connaître les contes pour adultes. Mais depuis déjà 6 ans ou 7 ans, on a introduit aussi une programmation jeune public qui, évidemment, il suit aussi la thématique annuelle. Donc, le cabaret drague, par exemple, sera aussi pour le jeune public. Oui. À 14h et à 19h pour les adultes.
Il y aura deux versions.
Oui, bah, ce sera le même artiste qui se partageront un peu les deux scènes, voilà, selon les affinités de chacun, chacune.
Ok. Ben merci beaucoup, Novella. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose pour clôturer.
Non, voilà, j'espère que ça se passera bien, parce que voilà, jeudi, apparemment, il y a un nouveau Conseil National de Sécurité.
Oui, c'est tout le bonheur que je vous souhaite
on
aussi.
On tient bon, voilà, nous, en tout cas, on est super motivés de reprendre, on a vraiment hâte de reprendre cette programmation, de rencontrer à nouveau nos publics, de partager, plein de chouettes moments. Voilà, j'espère que ça va être...
J'espère aussi que venir ici n'est pas un mauvais signe. Mais merci beaucoup. Et donc, on se retrouve normalement le 25 octobre, donc dès 15h.
Exactement. Oui. Merci à vous pour nous avoir invités.
Voilà, et n'hésitez pas à aller regarder le programme et déjà peut-être faire vos réservations sur Dimanche du Conte, dimanche donc au pluriel, .be. Voilà, merci Novella et merci toutes les Morissettes.
Oui.
Et à bientôt.
Au revoir.